La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment a-t-on découvert la radioactivité ? Je vous avais dit en septembre 2015 qu'il y aurait cette année une innovation par rapport à l'an dernier, dont le but est d'augmenter la connaissance que nous avons de nos connaissances scientifiques. L'argument qui gît là derrière est simple. Si nous ne savons pas dire comment nos connaissances ont pu acquérir, à une certaine époque, le statut de connaissance, en général à l'issue d'une bataille féroce entre arguments et contre-arguments, alors tout se passe comme si nos connaissances étaient des sortes de croyances que nous répétons sans en connaître l'origine, sans savoir ce par quoi elles sont devenues des connaissances. J'avais donc annoncé que, de temps en temps, j'inviterais à notre conversation scientifique un chercheur, un spécialiste, à qui je demanderais de nous expliquer par le menu comment tel phénomène fut découvert, comment telle théorie fut construite, comment tel objet fut détecté, comment telle idée a jailli et en quel cerveau. Mes premiers invités furent Pierre-Henri Gouillon, qui nous expliqua la théorie de l'évolution, Marc Lachaiseret, qui nous expliqua l'expansion de l'univers, Roland Lehoucq, qui nous raconta comment l'on a su que la Terre était ronde, enfin presque ronde, et puis Bernard Bonin, qui nous raconta la découverte de l'atome. Notre cinquième invité dans cette série est à mes côtés dans ce studio. C'est un personnage très barbu. Il s'appelle Bernard Fernandez. Bonjour Bernard Fernandez.
Bonjour.
Vous êtes physicien nucléaire et vous avez écrit il y a quelques années un livre magnifique qui s'intitule « De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la physique nucléaire ». Donc vous l'avez compris, je vous ai invité pour que vous nous racontiez la découverte de la radioactivité et de ce qu'elle a engendré par la suite dans le champ de la physique. À quelle date faut-il commencer pour commencer de l'envisager ? 1895, la découverte des rayons X ?
C'est compliqué, on pourrait commencer avant même, mais c'est sûr que c'est Röntgen qui a découvert les rayons X. Konrad Röntgen était un physicien qui travaillait sur les rayons cathodiques, comme beaucoup de physiciens à l'époque. C'était un domaine très, très, très en vogue. Et alors, en étudiant le rayon cathodique, il s'est rendu compte un jour qu'il avait son tube à rayon cathodique, qu'il avait enveloppé de papier noir pour masquer toute lumière. Et il s'est rendu compte que quand il lançait l'appareil, il voyait un écran qu'il avait mis de sensible de platino-cyanure de barium qui luisait, qui était à l'autre bout de la pièce. Alors il a été un peu intrigué. Il s'est rendu compte, il allumait, il éteignait. Ça, c'était vraiment lié au fait que l'appareil rayon cathodique était en
malgré
fonction.
Malgré le papier noir qui l'entourait.
Malgré le papier noir. Alors là, il a fait des choses plus systématiques, il s'est approché, et à un moment, il a mis sa main devant, et il a vu le squelette de sa main. Alors, ça l'a beaucoup surpris, et il a voulu absolument vérifier. Son laboratoire était dans le sous-sol, au rez-de-chaussée, je ne sais pas, de sa maison, et sa femme et sa maison étaient au-dessus. Et pendant 15 jours, sa femme a commencé à être inquiète parce qu'il passait tout son temps dans le laboratoire. Il était d'humeur assez renfrognée parce qu'il se disait ou bien il a fait une découverte extraordinaire ou bien tout le monde va penser qu'il est fou. Et alors, au bout de 15 jours, il a convoqué d'autres physiciens dans son laboratoire en leur disant « Voilà, vous allez faire ceci et cela » sans leur donner d'indices, mais en leur donnant une suite d'opérations à exécuter fidèlement. Alors, ils ont tous fait ça et ils ont tous vu, naturellement.
La même chose.
La même chose.
Alors, c'était la première fois qu'on voyait les os du squelette.
Voilà.
Donc,
alors là, il a même mis sa femme à contribution, parce que non seulement ça, on voyait ça sur un écran, mais on voyait ça aussi surtout sur une plaque photographique. Et donc, il a fait une radiographie de la main de sa femme.
Avec la bague.
Bertha, avec la bague. On voit bien la bague. Il a donc publié son papier fin 1895, en décembre. Et cet article a fait un tabac dans le monde scientifique. Tout le monde s'est intéressé aux rayons X immédiatement. Et pas seulement dans le monde scientifique, dans les grands journaux, dans les médias, parce qu'à ce moment-là, il y a même des articles disant on peut peut-être deviner les pensées des gens, on peut voir les femmes, par exemple, non vêtues, puisqu'on voit tout à travers. Röntgen, lui, qui était un homme très, très sérieux et méticuleux et honnête, avait remarqué deux choses. Il avait remarqué que ce qui semblait être la source de ce rayonnement bizarre qu'il appelait X, X était une inconnue, donc il l'appelait X, et c'était le point d'impact des rayons cathodiques sur le verre, qui était une petite lueur verte. Et puis il a remarqué aussi autre chose, c'est que autour des rayons X, dans le voisinage des rayons X, eh bien l'air devenait faiblement conducteur de l'électricité. Alors que normalement, l'air est vraiment un bon isolant. Voilà, ça c'est les deux choses principales. Alors tout le monde s'est emparé de ça. Et il se trouve que à l'Académie des sciences de Paris, on a fait une communication là-dessus, il y a même des médecins qui se sont immédiatement mis à essayer de faire des radiographies. Et Becquerel, qui était membre de l'Académie des sciences, de la même façon que son ami Poincaré, a entendu ça. Et ils ont pensé que peut-être, étant donné que c'était une tache fluorescente qui émettait ces rayons X, peut-être que dans tous les phénomènes de fluorescence, il y avait peut-être un rayonnement de ce genre-là.
Donc la fluorescence, c'est ce mécanisme par lequel un corps peut émettre de la lumière, même après avoir été éclairé.
Voilà, la fluorescence, c'est une sorte, c'est comme de la phosphorescence. Tout le monde connaît la phosphorescence. On expose un corps phosphorescent au soleil et ensuite il luit dans l'obscurité pendant quelque temps. Et la fluorescence, c'est le même phénomène, simplement beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que l'émission est beaucoup plus rapide immédiatement. C'est quand même un temps mesurable, hein, en millisecondes ou en quelque chose comme ça. Et donc, voilà, ça c'est le point de départ. Alors, Becquerel se met en marche pour vérifier ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un corps phosphorescent qu'il a dans son laboratoire. Alors, il a un cristal d'uranium qui contient de l'uranium. Il enveloppe bien dans un carton épais noir. Il met sur une plaque photographique, le tout bien isolé de la lumière, et le met au soleil. Pourquoi au soleil ? Parce que c'est la source de lumière intense qu'on connaît à l'époque.
Il veut vérifier que la phosphorescence et l'émission de rayons X sont deux phénomènes concomitants qui ont la même origine, en fait.
Voilà. Alors lui, étant donné que c'est un corps qui est très, très phosphorescent, il imagine que, mis au soleil, il va émettre beaucoup de lumière. Et s'il y a quelque chose comme les rayons X, eh bien, la plaque photographique va être impressionnée. Alors il fait ça. Et puis, il développe sa plaque, effectivement, elle est impressionnée, et il publie un premier papier en disant, ben oui, effectivement, il y a
les deux choses en même temps.
Voilà, alors, il va recommencer, fin février, et il va quand même recommencer en essayant de faire une petite radiographie. Et alors, il interpose une croix de métal entre le cristal d'uranium et la plaque photo. Et il met ça au soleil. Alors malheureusement, bon, c'est fin février à Paris.
1896.
Et en février, c'est rare qu'il y ait beaucoup de soleil.
Et alors, sauf cette année,
peut-être. Et en tout cas, c'est pas rare qu'il pleuve et qu'il fasse gris. Alors il a un petit peu de soleil et puis ensuite ça se voile tout de suite et puis voilà. Et ça, on est jeudi. Vendredi, samedi, le temps ne se découvre pas. Samedi, le temps ne se découvre pas. Dimanche, il se dit, bon, je ne peux pas laisser ça comme ça, la plaque va finir par être voilée toute seule. Donc, il développe sa plaque. En se disant, après tout, il y a eu une petite exposition, le ciel gris, ça fait un peu de lumière quand même, et puis il y a eu quelques heures de soleil. Donc, je devrais voir un petit peu quelque chose. Alors, il ne voit pas un petit peu, il voit beaucoup quelque chose. Du coup, sa réaction, c'est de trouver ça très surprenant, et il va quand même vérifier ça d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il refait l'expérience, mais cette fois-ci en enveloppant le tout et le mettant dans une chambre noire, sans lumière, et puis il va de temps en temps aller vérifier que effectivement ça impressionne la plaque photographique sans lumière
du tout.
Donc
même quand il n'y a pas de phosphorescence, voilà, il y a des rayons X.
Donc on peut dire que le premier développement où il a vu ça, c'était le 1er mars 1896. Le 1er mars, c'était un dimanche, et il a publié son article, sa communication à l'Académie, le lundi 2.
Bernard Fernandez, souvent on lit que le fait que Becquerel ait développé sa plaque alors qu'elle n'avait pas été éclairée par le soleil est une sorte d'acte irrationnel. Mais à vous entendre, non, il l'a fait de façon parfaitement argumentée.
On a beaucoup glosé là-dessus. Moi, je pense que c'est une réaction assez banale. Il a mis sa plaque. D'abord, les plaques photo, à l'époque, il faut voir qu'elles se voilaient très vite. À l'air, simplement, par oxydation. Et donc, elle était restée 4 jours exposée. Et je ne sais même pas si ça aurait été très valable de la laisser encore très longtemps. Parce que le fait de se voiler progressivement sans aucune action extérieure...
Mais aurait... il a été surpris de constater que la plaque photo était impressionnée par les rayons X.
Ah oui.
Donc il ne s'y attendait pas quand même.
Il s'attendait, à vrai dire, à une faible exposition. Parce que c'était resté un petit peu au soleil quand même, quelques heures. Et puis il y avait du ciel gris. Alors le ciel gris, ça émet un peu de lumière quand même. Et donc il s'attendait à voir quelque chose de faible. Sa grande surprise, c'est de voir quelque chose de très fort, parce qu'elle était très très noire, sa plaque.
Et donc le soleil n'avait rien à voir dans cette affaire. Alors, enfin, la lumière en général.
Oui, alors il s'est progressivement rendu compte que le soleil n'avait rien à voir dans l'affaire. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple qu'il n'était pas le seul, il y avait un Anglais qui s'appelait Sylvanus Thompson, qui a fait exactement la même chose que lui, et qui a exposé sa... au soleil, d'un cristal d'uranium, et qui a dit, et qui était prêt à publier, il appelait ça hyperphosphorescence, parce que lui aussi pensait que c'était lié à la lumière. Et puis il s'est rendu compte que Becquerel l'avait publié la semaine d'avant. Donc il a laissé tomber. Donc il n'a pas découvert la radioactivité.
C'était dans l'air du temps quand même, hein. Tout le monde était
sur le
coup.
C'était dans l'air du temps, je pense que tôt ou tard on l'aurait découverte, mais... Et puis, c'était publié. Poincaré a écrit dans un article que cette idée que la phosphorescence était peut-être responsable des rayons X, il avait exposé dans un article. Donc, c'était...
Donc, Poincaré, en fait, est celui qui a donné à Becquerel l'idée de faire cette étude expérimentale.
Peut-être, sans doute, on dit ça. C'est lui qui a publié un article dans lequel il disait ça. Est-ce qu'ils en ont parlé? Dieu sait comment ça s'est vraiment passé, ça, je ne sais pas.
Donc, si je comprends bien ce que vous dites, Bernard Fernandez, c'est que ce phénomène, qui ne s'appelle pas encore la radioactivité,
non,
semble être un phénomène spontané, c'est-à-dire un phénomène qui n'a pas de cause extérieure.
Voilà.
Est-ce que ça fait la une des journaux? Est-ce que
non,
les physiciens s'y intéressent,
non,
tout de suite, ou est-ce que...
Non, ça a déclenché peu de choses, peu d'articles, et un intérêt assez modéré de la part des physiciens, et encore plus modéré, sinon nul, de la part du grand public. Tout l'espace médiatique, si j'ose dire, était occupé par les rayons X. Faire une radiographie floue, difficile, qui prend des jours avec l'uranium, ne paraissait pas très intéressante. Et puis voilà, on connaît. Ça peut susciter d'intérêt.
En même temps, ça montre qu'il se passe toujours quelque chose dans l'uranium, puisque cette émission mystérieuse est continue.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, ça a pris quelques mois pour comprendre que c'était vraiment l'élément uranium, parce que...
Au départ, c'était des sels,
Oui, c'était des cristaux qui contenaient de l'uranium. Et alors, du coup, Becquerel a poursuivi un certain nombre d'expériences avec différents sels phosphorescents, contenant ou pas de l'uranium, jusqu'à faire l'essai avec de l'uranium métal pur que lui avait donné son ami Moisan. Il faut penser qu'à l'époque, on commençait juste à savoir séparer l'uranium. Et alors, peu à peu, Becquerel s'est rendu compte que les cristaux qui ne contenaient pas d'uranium n'avaient aucun effet. Seuls ceux qui contenaient de l'uranium. Et puis alors, l'effet, quand l'uranium pur était là, c'était pas un cristal, il n'était pas phosphorescent, parce qu'il a essayé aussi avec des cristaux liquéfiés. Sous forme liquéfiée, ils sont pas phosphorescents, et pourtant ils émettaient quelque chose. Et l'uranium pur, donc il s'est rendu compte peu à peu, mais ça a pris quand même quelques mois, que c'était vraiment l'élément uranium.
L'élément chimique uranium et pas les autres.
Voilà. Et ça, c'était quand même une chose tout à fait nouvelle, parce que au point où on était arrivé en chimie, les qualités chimiques des corps, d'un corps, d'une substance qui est un composé, le sel de cuisine, c'est du chlorure de sodium, qui a des propriétés très différentes à la fois du chlore et du sodium. Et avoir un phénomène dans lequel l'élément, quelle que soit la composition chimique dans laquelle il se trouve, c'est cet élément-là qui est actif, était quand même quelque chose d'assez tout à fait étrange.
Ça veut dire que ce n'est pas de la chimie qui est en jeu, ce n'est pas un processus chimique, ben, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la chimie?
Voilà. Oui, mais la chimie à l'époque, c'était la science des matériaux, des toutes les substances.
Parce qu'en plus, à l'époque, tout le monde ne croit pas à l'existence de l'atome.
Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est l'existence de l'atome. Effectivement, tout le monde n'y croit pas encore, mais on est quand même sur la voie. L'existence de l'atome, c'est-à-dire ça remonte à Démocrite, enfin, Lucrèce, tout ça. Mais la théorie moderne, on peut dire scientifique, parce qu'elle repose sur des observations scientifiques, ça remonte à Dalton au début du 19e, et elle a mis beaucoup de temps à s'imposer pour un certain nombre de raisons, et les chimistes étaient encore divisés à la fin du 19e siècle entre atomistes et équivalentistes. Alors les équivalentistes écrivaient toutes les équations de chimie sans tenir compte des atomes. Et donc, on avait des équations chimiques qui étaient différentes. Ça introduisait une certaine confusion, tout de même. Et il y a eu un congrès, le premier congrès de chimie internationale à Karlsruhe en 1860, convoqué par Kekulé, qui était un grand chimiste allemand, parce qu'il voulait essayer de trouver un consensus au moins pratique. Alors, naturellement, ça a duré 3 jours, les gens ne se sont pas mis d'accord. Mais Cannizzaro, qui était un grand chimiste italien, a distribué un petit texte dans lequel il a expliqué quand même que la notation d'Avogadro était beaucoup plus efficace et plus simple. Et en particulier, lui qui était professeur de chimie, pour expliquer ça aux étudiants, c'était quand même beaucoup plus facile. Alors c'est peut-être la première fois qu'il y a un argument pédagogique fait pour valider une théorie, mais en tout cas, ça a pris un peu d'essor à ce moment-là, et puis sont arrivés peu à peu un certain nombre de... En 1865, il y a Loschmidt, un Autrichien, qui a mesuré le nombre... Enfin, mesuré l'ordre de grandeur du nombre de molécules dans un centimètre cube d'air. Et puis, il y a eu la physique statistique, il y a eu Boltzmann, il y a eu
donc
tous ces gens-là.
On est sur la voie de la découverte de l'atome.
Et alors, voilà.
Beaucoup de gens sont convaincus, mais on ne connaît pas sa structure.
Voilà. Non seulement on ne connaît pas sa structure, mais on ne sait même pas s'il existe. Et atome, ça veut dire insécable. Ça veut dire qu'en principe, l'atome, c'est un tout qu'on ne peut pas du tout séparer.
Dans ce laboratoire de fortune, nous avons travaillé presque sans aide pendant 2 ans. Nous occupant en commun aussi bien du travail chimique que de l'étude du rayonnement des produits de plus en plus actifs que nous obtenions. Ensuite, il a fallu séparer nos efforts. Pierre Curie continua les recherches sur les propriétés du radium, tandis que je poursuivais les traitements chimiques en vue de la préparation de sel de radium pur. J'ai été amené à traiter jusqu'à 20 kg de matière à la fois, ce qui avait pour effet de remplir le hangar de grands vases pleins de précipités et de liquides. C'était un travail exténuant que de transporter les récipients, de transvaser les liquides et de remuer pendant des heures, au moyen d'une tige de fer, la matière en ébullition dans une bassine en fonte. J'extrayais du minerai le barium radifère, et celui-ci, à l'état de chlorure, était soumis à une cristallisation fractionnée. Le radium s'accumulait dans les portions les moins solubles, et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium pur. Les opérations très délicates des dernières cristallisations étaient considérablement gênées dans ce laboratoire si mal adapté par les poussières de fer ou de charbon dont on ne pouvait se protéger suffisamment. Malgré les difficultés de nos conditions de travail, nous nous sentions très heureux. Nos journées s'écoulaient au laboratoire et il nous arrivait d'y déjeuner fort simplement, en étudiant. Dans notre hangar si pauvre, régnait une grande tranquillité. Parfois, en surveillant quelque opération, nous nous y promenions de long en large, causant de travail présent et futur. Quand nous avions froid, une tasse de thé chaud prise auprès du poêle nous réconfortait. Nous vivions dans une préoccupation unique, comme dans un rêve. Il nous arrivait de revenir le soir, après dîner, pour jeter un coup d'œil sur notre domaine. Nos précieux produits, pour lesquels nous n'avions pas d'abri, étaient disposés sur les tables et sur des planches. De tous côtés, on apercevait leurs silhouettes faiblement lumineuses. Et ces lueurs qui semblaient suspendues dans l'obscurité nous étaient une cause toujours nouvelle d'émotion et de ravissement.
Alors, c'est une époque où la plupart des scientifiques sont des hommes. Oui. Mais la solution va venir d'une femme.
Oui, enfin, la solution, c'est peut-être beaucoup dire.
Non, mais au moins à propos de ces fameux rayons qui sont émis par l'uranium.
Voilà. Parce que ce qui va se passer, c'est que Becquerel fait un certain nombre d'expériences et puis au bout d'un certain temps, il arrête parce qu'il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment progresser. Et ça va attendre comme ça quasiment 2 ans. Jusqu'au moment où une jeune Polonaise qui est venue à Paris pour faire des études, parce qu'en Pologne, elle ne peut pas, elle est née en 1800...
Les filles ne peuvent pas.
Les filles, oui, elles ne peuvent pas. Mm-hmm. Les filles ne peuvent pas. Née en 1867 à Varsovie, elle s'appelle Maria Skłodowska, eh bien, elle ne pouvait pas aller à l'université. Et puis, Varsovie était à l'époque, faisait partie de la Pologne, faisait partie de la Russie. Et le tsar, il y avait eu des révoltes des Polonais. Alors le tsar avait imposé une règle de fer. La langue polonaise était interdite, etc. Elle aurait pu aller à l'université en Russie, mais elle ne voulait pas aller en Russie. Elle voulait aller à Paris. Alors bon, c'est une histoire un peu compliquée, familiale. Sa sœur aînée aussi voulait faire des études. Elle est partie à Paris, tandis que la jeune Maria s'est mise... comme institutrice privée, enfin préceptrice, pour gagner un peu d'argent. Et au bout d'un certain nombre d'années, elle est arrivée à Paris. Elle s'est inscrite à l'université. Elle a passé sa licence de physique.
À la Sorbonne.
À la Sorbonne. Et sa licence de physique, bon, elle était la meilleure de la promotion. Ensuite, elle a passé une licence de mathématiques. Alors là, c'était quasiment l'échec scolaire. Elle était que deuxième. À ce moment-là, elle a obtenu un petit contrat de la part de la Société d'encouragement, j'ai oublié le titre exact, à la métallurgie française, dont le siège se trouve toujours place Saint-Germain-des-Prés, en face de l'église, pour étudier les caractéristiques d'aimantation de certains aciers. Alors, elle était très contente d'avoir ce contrat, mais en même temps, elle ne connaissait rien à l'aimantation. Alors, elle en a parlé à un ami polonais qui était professeur à Fribourg et qui lui dit « Mais attends, moi, je connais quelqu'un qui est un grand spécialiste de l'aimantation, je vais te le présenter. » Et donc, elle s'est retrouvée un jour chez cet ami, en face d'un certain Pierre Curie. Alors, Pierre Curie avait à l'époque 35 ans. Il était très connu internationalement. Il avait fait des études. D'abord, il avait découvert la piézoélectricité. Puis ensuite, il avait fait des travaux très remarqués sur l'aimantation. Il avait montré beaucoup de choses. C'était vraiment un spécialiste mondialement connu. Quand le pape de la physique, qui était Thomson, qui est Lord Kelvin, venait à Paris, la première chose qu'il faisait, c'était aller voir Pierre Curie pour discuter de physique avec lui. Mais c'était un marginal à Paris, en France. Il était chef de travaux à l'école de physique et chimie industrielle. Il n'était pas du tout à la Sorbonne, etc. C'était vraiment un marginal. Il faisait ses expériences en plus... quasiment en perruque, quoi. Il n'avait pas le droit, en principe, d'utiliser les locaux de l'école pour faire ses expériences.
Il fabriquait des instruments. Alors, il en inventait.
Oui, absolument. Il fabriquait des instruments. Alors, il a fabriqué en particulier. Il avait découvert la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est l'électricité qui est produite par certains cristaux quand on les comprime ou qu'on les étire. Alors, ça sert maintenant absolument partout. La moindre bascule de ménage, le pèse-personne de ménage. Il a quatre capteurs qui sont des cristaux piézoélectriques. Quand on monte dessus, ben, ça fait un peu d'électricité, puis ça vous dit combien de... Combien de kilos vous avez en trop. Et il avait inventé ça. Et alors, du coup, il avait inventé un système pour mesurer la quantité d'électricité produite. Et il avait fabriqué comme ça un électromètre. Et puis, il avait aussi inventé des trucs, une balance, par exemple, une balance apériodique. Les balances utilisées dans les laboratoires, c'était des balances très sensibles, qui avaient l'inconvénient d'osciller quand on mettait un truc à peser, osciller pendant très longtemps avant de se stabiliser. Et donc, il avait inventé un amortissement à air apériodique, c'est-à-dire qu'il y avait une seule oscillation. Voilà. Pierre Curie, c'était un homme très gentil, très modeste, qui se mettait jamais en colère, qui avait une éducation un peu particulière, il n'était pas allé à l'école, il avait eu des précepteurs privés. Et donc, il se trouve en face de cette jeune femme, cette jeune Polonaise, qui est passionnée de physique. Alors, lui, Pierre Curie, avait pensé qu'il ne pourrait jamais se marier. Il ne pourrait jamais se marier parce que un homme comme lui, qui voulait se consacrer entièrement à la science, une femme ne pourrait jamais comprendre ça, et pourrait l'admettre, et pourrait supporter. Or, il trouve... Il voit en face de lui une fille qui, en plus d'être jolie, est passionnée de physique. Alors là, il tomberait d'amoureux, c'est tout de suite. D'ailleurs, il a écrit plus tard qu'il avait du mal à prendre des décisions quelquefois. Mais alors il dit, ça c'est la décision la plus rapide que j'ai prise de ma vie et celle dont je ne me suis jamais repenti. Alors il décide de se revoir, etc. Il fait une cour acharnée et finalement il se marie. Et... elle fait ses études d'aimantation et puis ensuite elle cherche parce qu'elle voudrait faire une thèse. Alors faire une thèse, il faut voir pour une femme. En 1898, enfin même un petit peu avant, c'est quelque chose de pas tout à fait habituel. C'est même la première fois qu'une femme prétend préparer une thèse en physique. Il y a déjà eu quelques thèses en France, mais en biologie ou en médecine, dont la sœur de Marie, de Maria.
Qui était venue avant elle à Paris.
Et donc Maria Skłodowska, qu'on appelle Marie maintenant, elle a francisé son nom en Marie. Et puis bientôt elle épouse Pierre Curie, donc on va l'appeler Marie Curie. Et donc elle se met en quête d'un sujet de thèse. Et Pierre lui dit, écoute, Becquerel a découvert ces rayons un peu étranges, qu'on appelle rayons uraniques ou rayons de Becquerel. Puis, il n'y a pas eu d'écho, mais peut-être que tu pourrais creuser ça. Alors, Marie se met au travail, toujours en perruque, dans un petit local que met à sa disposition le directeur Schützenberger, qui est le directeur de l'école de physique et chimie.
Qu'on voit un peu caricaturé dans cette pièce qui s'appelle Les Palmes de M. Schultz,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui, caricaturé à sa défaveur, parce qu'au lieu d'être un dictateur, c'était au contraire un homme très libéral, qui justement avait compris, c'était un grand chimiste, professeur au Collège de France, et il avait compris que Pierre Curie, ce que Pierre Curie faisait, c'était vraiment très important, donc il essaie. Mais enfin, c'était quand même un local exigu et pas commode. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, la première question qu'elle se pose, c'est, voyons, l'uranium émet des rayons qu'on appelle uraniques. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font ça ? Alors, elle va prendre, d'une manière systématique, tous les éléments de la table qu'on appelle le tableau de Mendeleïev. Tous les éléments.
Chimiques.
L'un après l'autre. Tous ceux sur lesquels elle peut mettre la main, quoi. Et elle ne trouve rien, sauf, elle tombe sur le thorium. Manque de chance, il y a un Allemand qui a publié une semaine avant. Il a trouvé aussi le thorium. Donc, bon, pas de chance, mais en regardant l'uranium de près, elle s'est rendue compte d'une chose un peu étrange. Elle a mesuré l'activité, comme on disait, de l'uranium. Alors, comment mesurait-elle ça ? Alors, il faut voir aussi qu'à l'époque, les instruments de mesure étaient quand même très loin de ce qu'on connaît maintenant. Son instrument de mesure, c'était l'électromètre de Pierre Curie, qui mesurait la quantité d'électricité qui était développée quand on met un poids sur une balance. Eh bien, elle mettait sur une petite coupelle une petite quantité d'éléments actifs, Et puis, en face de cette coupelle, il y a une plaque en métal. Et entre les deux, elle met une certaine tension électrique, un millier de volts, mettons. Et puis, elle veut mesurer le courant qui passe, parce que ça rend l'air un petit peu conducteur. Tout à l'heure, j'ai dit que Röntgen avait découvert ça pour les rayons X, et Becquerel, naturellement, l'avait aussi montré observer pour l'activité de l'uranium, les rayons de l'uranium. Donc, elle mesure ce courant électrique grâce à avec une expérience qui est quand même très difficile à réaliser proprement. Et puis, comme ça, elle mesure. Et alors, elle mesure l'uranium pur. Elle mesure le minerai d'uranium, la pêche blend. On connaît exactement la quantité d'uranium qu'il y a dans la pêche blend. Et elle trouve une anomalie, à savoir la pêche blend est plus radioactive que ce qu'il faudrait. D'après la simple règle de 3.
Plus radioactif que l'uranium lui-même.
Que l'uranium qu'il y a dedans. Moi, je tire mon chapeau à une chose, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une anomalie. Alors d'abord, cette anomalie, elle n'a pu l'observer que parce qu'elle a fait une mesure très précise. Parce que c'est une anomalie qui est de l'ordre de moins de 10%. Donc pour vérifier ça, il faut des mesures à quelques pourcents. Or, quand on voit les appareils qu'elle avait à sa disposition, on doute que ce soit possible. Et pourtant, elle l'a fait.
Grâce à cet électromètre qui avait été inventé par
Pierre Curie. Grâce à cet électromètre et à sa façon de faire. Vous savez qu'il y a des physiciens du laboratoire d'Orsay qui ont essayé de reprendre cette expérience avec les appareils qui sont conservés au musée de l'Institut du Radium, au musée Curie. Et ils ont eu beaucoup de mal à reproduire.
Il faut un doigté extraordinaire.
Voilà. Et puis, il faut surveiller une petite lumière. Enfin, c'est très compliqué. Il faut déclencher un chronomètre. Il faut laisser poser le poids sur la balance qui va mesurer la balance de Pierre Curie, l'électromètre. Il faut poser, mais en le laissant, pas en le posant d'un coup, en le posant progressivement de façon que le courant produit soit à peu près constant. Ça demande un doigté qui a mis, je crois que les gens d'Orsay ont mis plus d'un an à arriver à le faire. Et donc, arriver à avoir quelques pourcents de précision là-dessus, c'est tout à fait remarquable. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que c'était une anomalie, elle s'est posé la question de savoir, ça peut être dû à quoi? Si c'est plus radioactif que l'uranium, l'hypothèse normale, c'est qu'il y a un autre corps que l'uranium qui est radioactif. Mais il y a un problème, c'est que l'analyse chimique de la pêche blend qu'on connaît bien ne révèle rien.
C'est-à-dire les éléments chimiques déjà connus qui sont dans la pêche blend ne sont pas radioactifs.
Ne sont pas radioactifs. D'ailleurs, on emploie le mot radioactif, c'est elle qui l'a inventé. Ouais. Voilà. Donc le raisonnement de Marie Curie, c'est de dire, alors si on n'en décèle aucun corps radioactif dans la pêche blend, c'est qu'il est en très petite quantité. Trop petite pour être visible dans une expérience de chimie. Mais à ce moment-là, c'est qu'il est très radioactif, parce qu'on le voit quand même.
Donc on ne l'a jamais vu, en fait. On ne le connaît pas.
Donc on ne le connaît pas.
Donc c'est un nouvel élément chimique.
Donc ça doit être un nouvel élément chimique. Et comment le faire, puisque l'analyse chimique ne voit rien. Il est en trop petite quantité. Alors c'est là que elle et Pierre Curie vont inventer, carrément, la radiochimie. C'est-à-dire que ils vont essayer de faire des réactions chimiques qui vont augmenter. Chaque fois qu'ils font une réaction chimique qui a l'air d'augmenter dans un corps produit la radioactivité, ils se disent, oh là, on a fait une réaction chimique. Si on fait une réaction chimique, par exemple, qui tente de... Comme si on voulait chercher du barium dans la pêche blende. On fait l'expérience, et puis pof, on trouve que le résultat, c'est un peu plus radioactif que le départ. Donc c'est un corps qui ressemble au barium, en tout cas. Et peu à peu, comme ça, peu à peu, elle a concentré, elle a vu une activité qui a augmenté. Et donc, d'abord, en juin 98, elle a découvert, avec Pierre Curie, un nouveau corps qu'ils ont appelé le polonium, pour des raisons évidentes. Et en décembre, un nouveau corps qu'ils ont appelé le radium.
Qui, à masse égale, rayonne 1,4 million de fois plus que l'uranium.
Et oui.
Donc il est très radioactif.
Il fallait qu'il soit très radioactif pour qu'on puisse le voir alors qu'il est en si petite quantité.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
C'était un travail de plusieurs mois, un travail intense, très pénible.
Oui, c'était un travail très pénible de plusieurs mois, parce qu'il s'était procuré de la pêche blinde, disons. Il travaillait dans des conditions, dans un petit hangar qu'on avait mis à leur disposition. Il fallait se travailler dehors, parce qu'il faisait des choses avec des acides et tout ça. Ça développait des fumées extrêmement...
Et on ne connaissait pas les effets de la radioactivité sur la santé.
Donc elle a peu à peu concentré... Et fin 98, donc ils ont publié cet article disant qu'ils avaient découvert un nouvel élément.
Alors ça, ça fascine le public, je crois. Les médias s'en emparent. On ne tarde pas à prêter toutes sortes de vertus magiques à ces rayons.
Mais ça, c'est un peu plus tard, ça. Oui, parce que sur le moment, ce qui a surtout intéressé, c'est le radium a intéressé les physiciens. Parce que si on arrivait à concentrer, avoir une très petite quantité d'uranium, de radium, et qu'on avait tout de même une source intense de radioactivité, on pouvait faire des études qu'on ne pouvait pas faire avec l'uranium, qui est beaucoup, un million de fois moins radioactif.
Donc on a une source plus puissante qui permet de mieux comprendre la radioactivité.
Voilà. Et donc de mieux l'étudier, etc. Donc ça, dans un premier temps, beaucoup intéressé les physiciens qui se sont emparés. Et c'est un peu après que on s'est rendu compte, ça c'est de manière fortuite, Pierre Curie avait prêté à Becquerel un échantillon de radium. Becquerel l'a mis dans sa petite poche, dans son veston. Et il s'est rendu compte, au bout de quelques temps, que la peau dessous était très irritée. Il y avait une sorte d'inflammation qui a mis longtemps à se résorber.
C'est plus qu'un gros coup de soleil.
C'est plus qu'un gros coup de soleil. Alors, Pierre Curie, naturellement, a scotché, enfin, s'est mis sur son bras un petit bout de radium pour vérifier que ça allait faire la même chose sur lui, ça a fait la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pensé que peut-être, s'il s'agissait sur la peau, ça pouvait peut-être agir sur certains cancers.
Combattre les cancers, la tuberculose, guérir l'impuissance sexuelle, l'hypertension artérielle, éliminer les verrues plantaires, stopper la chute des cheveux. Voilà ce que j'ai lu.
Oui, mais ça, c'est du roman, ça. Mais... enfin, Marie Curie s'est intéressée tout de suite, enfin, rapidement, c'est à partir de 1900, disons, en gros, début du siècle, on s'est mis à expérimenter le radium, surtout pour essayer de guérir des cancers de la peau. Et on a eu des résultats. Le départ du développement des études sur la radioactivité, c'est vraiment le radium. Par exemple, quelqu'un comme Ernest Rutherford, qui est quand même l'un des grands physiciens du siècle, qui était un peu plus jeune, il était né en 70, en 1870, un peu plus jeune que Marie Curie, qui était né en Nouvelle-Zélande, qui était arrivé en Angleterre avec une bourse... C'est curieux d'ailleurs, c'est une bourse qui avait été instaurée lors d'une exposition universelle à Londres pour faciliter les voyages des jeunes scientifiques à travers le Commonwealth. Et donc il a bénéficié de cette bourse pour venir à Londres. Il a choisi celui qui était le grand laboratoire de l'époque, le Cavendish, qui était dirigé par le fameux Joseph John Thomson. Donc il a fait un certain nombre de choses et puis... il a commencé à s'intéresser à la radioactivité grâce au radium. Et je fais une petite parenthèse, grâce au radium, parce que Pierre et Marie Curie ont refusé de breveter la méthode d'extraction du radium. ils ont considéré que le radium, leur argument, le radium est un élément. Donc ça fait partie du domaine public. Donc,
il est dans la nature.
Il est dans la nature.
Il appartient à personne.
Il appartient à tout le monde. Voilà.
Enfin, il appartient à tout le monde, pardon.
Oui.
Personne en particulier.
Personne en particulier. Puis il y avait d'autres. Alors, il y avait aussi. On s'est mis à fabriquer du radium un peu partout, hein. Puisque la méthode d'extraction, elle l'a rendue publique tout de suite. Donc, Rutherford a eu accès à un peu de radium et il s'est mis à étudier cette radioactivité, ces rayons qui sortaient
donc
du radium.
Certains éléments chimiques émettent des rayons. Quelle est la nature de ces rayons? D'où tirent-ils leur énergie?
Oui.
Ils sortent en permanence?
Oui.
Est-ce que ça ne viole pas des lois de conservation de l'énergie?
Alors ça inquiétait beaucoup Pierre et Marie Curie. À savoir que ça violait les principes de la thermodynamique, parce qu'on voyait même de l'uranium. Elle avait réussi à concentrer énormément, à faire de l'uranium, pas pur mais presque pur, et dans l'obscurité, ça luit faiblement. Il y avait un peu de lumière. Et alors, il se disait, comme elle dit dans un article, c'est une cause d'étonnement profond. Comment se fait-il? D'où tire-t-il son énergie? Et alors, elle donne d'ailleurs les deux hypothèses. Ou bien, c'est l'énergie qui est stockée dans l'uranium.
Et qui sort continuellement.
Et qui sort continuellement. Mais à ce moment-là, il faut renoncer à des principes chimiques, parce qu'on... à ce moment-là, l'uranium se transformerait. Alors, il faut renoncer aux principes chimiques auxquels on croit. Ou bien, c'est un rayonnement qui vient de l'univers. Après tout, on n'a pas tout découvert. Il pourrait y avoir des rayonnements qui traversent. Et que l'uranium soit justement capable de...
D'absorber ces rayonnements, de les réémettre.
Voilà. Donc, mais elle dit, dans les deux cas, la question n'est pas simple. Elle conclut comme ça. Et donc... Rutherford, avec son uranium, va faire quelque chose. Rutherford a été quand même un très très grand physicien et un expérimentateur de génie qui s'attachait toujours à voir les choses simples avant les choses compliquées. La première chose qu'il fait, c'est de regarder la puissance de pénétration de ces rayons. Parce que ces rayons sont fatalement arrêtés par une plaque de métal ou... Et alors, il s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas... c'est pas homogène. Il y a une sorte de rayon qui est faiblement absorbé. On peut mettre plusieurs feuilles de papier, et puis il est pareil toujours. Il traverse beaucoup, une grande épaisseur de papier, ou d'air. Par contre, il y en a un qui est très fortement absorbé, qui franchit très peu de... Il est absorbé par une feuille de carton.
Il est stoppé par n'importe quelle matière.
Voilà. Alors, celui qui est très, très fortement absorbé, il appelle alpha et l'autre bêta. Bon, c'est les deux premières lettres de l'alphabet grec. Hein. Et donc...
Donc il y a deux sortes de rayons, alpha, bêta.
Voilà.
Il y a un troisième qui va arriver, je devine.
Alors, il y a un troisième qui va arriver, qui a été découvert par un physicien français qui s'appelait Villard en 1900. Il s'est rendu compte que, justement, il y avait une troisième sorte de rayon qui était arrêté par beaucoup moins encore que les bêtas. Enfin, il était beaucoup plus pénétrant que les bêtas. Et donc, on les a appelés gamma. On a eu une autre dénomination, les super rayons X, ou je sais pas quoi. Mais finalement, le terme de gamma s'est imposé. Rutherford et Pierre et Marie Curie, indépendamment, voulaient essayer de comprendre d'où venait l'énergie. D'où venait cette énergie? Rutherford, lui, s'est attaché au rayonnement très pénétrant, au rayonnement alpha. Il a compris rapidement, en faisant des expériences très soigneuses, que c'était probablement des particules lourdes par rapport au bêta qui était léger. Alors ça, plusieurs physiciens, mais surtout Becquerel, ont démontré que les bêtas, c'était rien d'autre que des électrons. Les électrons, c'était une particule nouvellement découverte. C'était Thomson qui avait établi les caractéristiques des électrons.
Découverte 2 ans après les rayons X, en 1997.
Oui, c'est ça, 1997. Ouais. Et donc...
Donc la radioactivité, pour résumer, la radioactivité bêta, c'est l'émission par certains atomes d'électrons.
Voilà. C'était déjà un peu étrange parce que ça voulait dire que les atomes n'étaient pas insécables.
Il y a des choses à l'intérieur.
Parce qu'il y avait des choses à l'intérieur. Et à l'époque, ça paraissait évident, c'était une preuve. Il y avait des choses, il y avait des électrons qui sortaient de certains éléments, donc ils étaient dedans.
C'est ce qu'on pourrait appeler l'argument dentifrice.
Voilà.
Si la pâte sort du tube, c'est qu'elle était dans le tube avant de sortir.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai pour tous les dentifrices. Mais par contre, les dentifrices qui ont des...
Signal.
Qui ont des raies rouges et blanches. Les raies rouges et blanches...
Ne préexistent pas à leur émission.
Voilà.
Là, on se rapproche de ce qu'est vraiment la radioactivité. Là.
Voilà.
Grâce aux dentifrices, signal.
Voilà. Donc, on s'est mis à étudier ces rayons. On s'est rendu compte qu'avec un petit champ magnétique, on arrivait à dévier assez facilement les rayons bêta. Alors que le rayon alpha ne semblait pas être dévié.
Plus légèrement, ils sont lourds.
Alors, pendant quelques années, on considérait qu'ils n'étaient pas déviables. Parce qu'on n'avait pas essayé avec des aimants assez forts. Alors, on parlait de rayons déviables et non déviables, voilà. Et puis, Rutherford a réussi avec des aimants assez forts à dévier, donc la question était réglée. Mais les alphas n'étaient pas déviables parce qu'ils étaient très lourds, beaucoup plus lourds. 8000 fois plus lourd que les bêtas. Alors forcément, c'est plus difficile à dévier. Et donc, Rutherford s'est acharné à trouver la nature des particules alpha, à essayer de comprendre leur masse. Et il est tombé sur le fait que il voulait absolument trouver la charge d'une particule alpha. Et il y avait plusieurs hypothèses et pour vraiment trancher, l'idéal, ce serait de détecter un nombre de particules qui sortaient d'un petit bout de radium pendant un temps donné. Comme on savait la quantité d'électricité qui sortait, ben, il suffisait de diviser l'un par l'autre et puis on avait la charge d'une particule alpha. Malheureusement, les méthodes de détection à l'époque ne permettaient pas de compter une à une les particules. Alors, il y avait bien une méthode qui avait été découverte par Crookes, le physicien chimiste anglais. Il avait inventé même un appareil qu'il appelait le spintariscope.
Le spin, on dirait du...
Le spintaris, c'est l'éclat, la lumière en grec. Et donc, c'était quelque chose pour observer. Parce qu'il avait observé que, et puis d'autres, hein, que la radioactivité... Quand on mettait un écran de sulfure de zinc, cet électron devenait un petit peu lumineux en face d'un corps radioactif. Donc il avait inventé un truc avec une espèce de grosse loupe et on voyait cette petite lumière. Et puis quand on regardait précisément avec un microscope un peu plus puissant, on voyait que c'était en fait des petits éclats qui arrivaient ici ou là. Et donc l'idée que c'était peut-être chaque fois une particule. Mais Rutherford, qui était un homme extrêmement prudent, refusait de prendre ça comme un instrument de détection fiable, parce que son argument était, mais je ne sais pas si chaque particule fait un éclat, si chaque éclat est dû vraiment à une particule. Donc comment savoir? Alors il a proposé à un jeune physicien qu'il a rencontré à Manchester quand il est arrivé, qui s'appelait Hans Geiger. Hans Geiger, il était né en 1882.
Celui qu'on appelle Geiger quand on parle des compteurs.
Voilà. et donc, lui, il avait fait sa thèse en Allemagne, à Erlangen, et il était arrivé en stage postdoctoral, comme on disait, à Manchester, Et donc, Rutherford, quand il arrive à Manchester, à la rentrée de 1907, discute avec lui, probablement se rend compte tout de suite que c'est un très très bon physicien, et lui propose de rester. Il va rester 5 ans. Et l'une des premières choses que Rutherford lui propose, c'est de regarder si on ne pourrait pas faire un compteur en utilisant les avalanches de ce physicien anglais qui s'appelait Townsend, et qui avait montré que dans les gaz raréfiés, quand on mettait... Normalement, ils sont isolants, mais quand on mettait une tension assez élevée dans un condensateur, entre deux plaques, eh bien, s'il y avait un petit courant électrique qui passait, en fait, ce courant se multipliait. Il y avait une sorte de... on observait un peu plus de courant qu'on aurait dû. Et donc, on avait interprété ça en disant « Oui, mais ça sont les électrons qui se mettent en branle. » Et alors, ils cognent d'autres atomes et ils multiplient les électrons comme ça. Et donc, Rutherford propose à Geiger de travailler là-dessus, de voir si on peut faire un compteur. Et puis, ça n'a pas loupé. Un an après, Geiger arrive avec un compteur qui fonctionne. Qui est assez... C'est vraiment la préhistoire des compteurs qu'on appelle Geiger en France. C'est-à-dire que quand il a détecté une particule, il faut qu'il se repose pendant plusieurs secondes avant de détecter une deuxième. Il faut qu'il se remette, voilà. Dans son état initial, parce qu'il y a une grosse décharge électrique, et donc il faut lui laisser se calmer, et puis pour recommencer. Et la première chose que fait, naturellement, que font Rutherford et Geiger, c'est de comparer le nouveau compteur aux scintillations du sulfure de zinc. Et miracle! C'est concordant. Moyennant quoi, le sulfure de zinc, qui est quand même beaucoup plus facile à mettre en œuvre, va être utilisé pendant 20 ans. Et donc, Rutherford va mesurer la charge de la particule alpha, parce que c'est ça qu'il voulait. Hein. Et donc, mesurer d'ailleurs le nombre d'Avogadro, qui c'était la... je ne sais pas combien, c'était la 7e ou 8e mesure indépendante du nombre d'Avogadro, concordante, ce qui quand même donnait à l'hypothèse atomique, comme on disait encore, l'hypothèse.
Plus qu'une preuve pédagogique.
Voilà. D'ailleurs, il paraît que le grand physicien chimiste allemand, Ostwald, qui était contre l'hypothèse atomique, a été finalement convaincu.
En 1909, ouais, je crois qu'il a déclaré publiquement qu'il s'était trompé toute sa vie.
Voilà, parce qu'on lui a montré un écran de sulfure de zinc, il a vu les petits impacts. Et quand même, comme c'était un homme honnête, il a été convaincu. Donc, on a utilisé ceci pour déterminer le nombre d'Avogadro, pour déterminer la charge de la particule alpha, donc sa masse. Et Rutherford a pu calculer la quantité d'énergie qui était émise par seconde, qui était colossale. Et alors, d'où venait ça? Alors ça, c'est encore une deuxième histoire qui se greffe là-dessus, c'est que il s'est rendu compte, Rutherford, avec un chimiste qui s'appelait Frédéric Soddy, qu'en fait, la radioactivité, c'était une transformation d'un élément dans un autre. Et qu'au cours de cette transformation, eh bien, il y avait des choses qui partaient. Des particules alpha, des bêta, voilà.
Donc un élément chimique devient un autre élément chimique.
Voilà. Et ça que Marie Curie avait considéré en disant que c'était quand même... aller jusque-là, c'était quand même osé. Ben Rutherford, lui, qui était très pragmatique, il a osé. Et il a publié un grand article dans Nature. Enfin, il y a plusieurs articles, mais dans le grand article dans Nature qui s'appelle simplement « Change », « Changement ». Et dans lequel il montre que les éléments se transforment les uns dans les autres. Et qu'au cours de cette transformation, eh bien, des particules alpha, des particules bêta sont émises.
Bernard Fernandez, le temps a passé, on vous écouterait pendant des heures, mais nous n'avons raconté que le début de l'histoire. Il faudra revenir, d'autant plus que vous êtes à l'évidence un conteur. Vous êtes radioactif comme tout le monde, mais vous n'êtes pas assez actif à la radio. Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu positivement à notre invitation à cette conversation scientifique. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.